Avis de valeur, une émission présentée par Henri Buzicazo.
Je salue les auditeurs de Radio Immo. Une nouvelle émission d'Avis de valeur qui va porter sur un sujet de très vive actualité, la rénovation environnementale, hein, il faut dire ainsi, plus qu'énergétique, des copropriétés. C'est un grand enjeu, il a été chiffré par Hugues Périllet-Marquet, président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière, à quelques 600 milliards d'euros à exposer dans les 10 ans qui viennent. On donnera un autre repère, c'est la loi du 22 août 2021, peut-être étiez-vous en vacances, mais oui, le législateur a travaillé, une loi a été promulguée qui donne une feuille de route aux copropriétaires, une feuille de route aussi aux propriétaires bailleurs et aux copropriétaires bailleurs. On va parler de tous ces sujets aujourd'hui. Alors, à la fois pour se dire la vérité, hein, vous connaissez le ton de David Valeur, et avec trois experts qui n'ont pas la langue dans leur poche, et puis pour... J'espère dire aussi que des solutions existent, parce qu'aujourd'hui il y a une inquiétude, on peut pas se le cacher, et chez les copropriétaires et chez les professionnels, les acteurs professionnels de la copropriété. Alors j'ai la fierté de dire que non seulement autour de cette table on a atteint la parité, mais on l'a même dépassée. Tant mieux, il y a deux femmes avec nous. C'est une façon de se faire pardonner. Je parle très sérieusement. Je vous rappelle que des élus, et pas des moindres, je pense à Mickaël Nogal, hein, président du Conseil national de l'habitat, Jean-Luc Laglaise, ont signé une charte qui s'appelle Jamais sans elle. Et ils refusent désormais d'intervenir dans un débat public s'il n'y a pas la parité. Donc je suis très sérieux. Eh bien j'espère qu'ils auront la satisfaction de voir que on ne se laisse pas aller sur Radio Immo. Alors, je salue avec beaucoup de plaisir Constance André. Elle est chargée d'affaires pour l'habitat collectif chez Elio. Elle nous dira en un mot quel est le métier d'Elio. Bonjour Constance.
Bonjour.
Je salue Isabelle Fournier, qui est syndic de copropriété et elle est membre du bureau exécutif de la FNAIM du Grand Paris.
Bonjour, oui.
J'ajoute d'ailleurs qu'elle est architecte de métier.
Architecte et urbaniste.
Et urbaniste. Un point très important. Et alors, à son côté, aujourd'hui, on a deux invités qui font le même métier. On verra s'ils ont la même vision. Ils sont tous les deux installés à Paris. C'est Francis Jobard. Il est le président du cabinet Jobard Immobilier Paris, cabinet éponyme, comme on dit. Il est architecte, voilà, lui aussi.
Tout à fait.
Et il est même l'un des dirigeants fondateurs du syndicat qui rassemble les architectes qui font de l'administration de biens, qui s'appelle la CARGIM, je le rappelle volontiers. Donc on a avec nous deux syndics de copropriété, mais qui ont un regard sans doute différent de leurs confrères, parce que quand on est architecte, quand on est urbaniste, la rénovation environnementale, je ne pense pas qu'on la regarde de manière tiède, voilà, ni réfractaire. Vous connaissez la règle du jeu de cette émission, du franc-parler, et déjà du franc-parler parce qu'on part de ce que pensent nos compatriotes, comme dirait le président Macron, dans la rue. Alors on est allé les interroger, et tout d'abord, est-ce que les copropriétaires, on parle d'eux aujourd'hui, ils voient clair sur la transition environnementale, les obligations, les moyens? On en voit.
Avis de valeur, le suffrage populaire.
Travaux de rénovation énergétique, une démarche complexe.
Je vois tous les arcanes de l'administration, c'est une version Astérix. Hein. Vous allez du bureau A au bureau C, du bureau C au quatrième étage, au dizaine sous-sol, vous dites ouais, ça va quoi, allez, je dégage. Terminé. Voilà un petit peu. À part ça, tout va bien.
Il y a une prime qui s'appelle Prime Rénov, qui permet aux propriétaires de, effectivement, qui aide les propriétaires pour financer des travaux d'économie d'énergie. Mais alors, faut-il sortir de Polytechnique ou de Saint-Cyr? Moi, je pense que j'ai un cerveau assez bien fait, mais c'est incompréhensible. J'ai été sur le site du gouvernement. C'est un déroulé incompréhensible en différents, effectivement, paragraphes de chiffres. Voilà. Donc, je suis rentrée, j'ai déroulé et je suis sortie. Et je ne sais toujours pas.
Faut-il sortir de Polytechnique ou de Saint-Cyr? Moi, je retiens cette phrase parce qu'elle est, très jolie. Et cette femme copropriétaire, qui s'appelle Brigitte, dit, je crois, ce que tout le monde pense. Alors, on va commencer par Francis. Quand on a face à soi des copropriétaires, est-ce qu'ils se confirment qu'on est dans la confusion la plus totale, dans le doute? Alors, le doute sur ce qu'il faut faire, le doute, on parlera tout à l'heure des outils sur la santé de son immeuble, les audits qu'il faut obligatoirement engager, sur les dépenses qu'il faut exposer. Je vous donne un chiffre de plus d'ailleurs, 60%, près de 60% des Français ne connaissent absolument pas les aides. Et on entend cette dame citer la prime Rénov. Alors c'est ma prime Rénov, hein, déjà elle ne connaît pas bien le nom, mais elle fait partie de ceux qui ont une petite idée. Qu'est-ce qu'il en est, Francis? Quand on a face à soi des copropriétaires, quelle que soit l'importance des immeubles, quel que soit le quartier de Paris?
Non, c'est... L'importance de l'immeuble a quelque chose. Vous voyez. Bon, quand les gens ont un chauffage collectif, hein, avec des dépenses collectives d'énergie, si vous voulez, ils sont très attachés à une rénovation énergétique. Et ça, on peut leur proposer. Par contre, quand c'est individuel, le chauffage est individuel, quand, eh ben, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une entente collective autour de cette démarche.
D'accord.
Bon, en ce qui concerne les aides, alors là, ils sont complètement dépassés.
Oui.
Hein? Bon, c'est vrai que c'est une usine à gaz. Hein? Si, mais même si vous êtes propriétaire bailleur, hein? Bon, et que vous voulez faire une rénovation énergétique de votre immeuble.
Partie privative. Hein?
Partie privative. Bon, vous n'êtes pas un propriétaire bailleur qui ait la possibilité de reloger vos locataires pendant lequel vous allez faire les travaux.
Oui. Hein? Travaux,
et ben, le dossier pour faire un appartement ou pour en faire 100, c'est la même paperasserie.
D'accord.
Donc les gens refusent.
Alors, Isabelle, je vais poser aussi la question relative au syndic. Tu as des responsabilités syndicales, donc tu as face à toi des copropriétaires quand tu fais ton métier, et puis des confrères quand tu es au syndicat. Est-ce que les syndics eux-mêmes, c'est beaucoup mieux en termes d'information, de sensibilité et d'envie de faire, pour être tout à fait clair?
Alors, oui, parce qu'on est passé de l'incitation à la contrainte. Ça, nous, les professionnels, on s'y attendait, on avait prévenu nos copropriétaires. C'est pas un mal. Je suis pas contre arriver à un stade où on a des contraintes. Encore faut-il que en face, ça soit pas un brouillard et un maillage tellement complexe que plus rien, en tout cas les copropriétaires, c'est sûr, n'y comprend rien et que s'engouffrent de nouveaux métiers en transversal qui sont les assistants à maîtrise d'ouvrage, qui eux-mêmes sont financés, portés totalement et qui vont, à mon avis, faire très vite. Ombrage aux syndics qui sont peu impliqués ou qui veulent pas s'impliquer. Maintenant, il y en a de moins en moins. On a des formations à la FNIM,
oui.
Sur
oui.
Notamment des filières de qualification, notamment les copro-vertes.
Les copro-vertes.
Donc, qui se passent sur 3 jours, soit en distanciel, soit en présentiel.
Ça marche, ils y vont dans ces formations.
Oui,
on dit la vérité.
Oui. Franchement, de plus en plus, ils ont compris. De toute façon, je pense que quand on est syndic de terrain, on a bien compris qu'il fallait embarquer
bien
systématiquement la transition sur les couvertures, les façades. Maintenant, suivant la typologie du bâtiment, vous n'allez pas faire de l'haussmannien en doublant par l'extérieur. Donc, il y aura un moment une inquiétude réelle, des points techniques sur lesquels on ne pourra pas, au niveau financier, au niveau architectural, répondre à l'attente du gouvernement et atteindre des objectifs A ou B. Voilà.
Bien sûr. Constance, sur l'évaluation de ce qu'il faut faire, quand on va chez le médecin, il fait d'abord un diagnostic. Même chose pour la rénovation énergétique. On a bien vu qu'il y a des circonstances très différentes selon les immeubles, des situations très, très tranchées. Votre sentiment sur le degré de conscience et des syndics et des copropriétaires sur ce qu'il faut faire déjà, et peut-être même sur leur connaissance ou leur méconnaissance des obligations. La loi est toute fraîche, mais est-ce qu'ils ont ça en tête?
Non, pas vraiment, manifestement non, et vous l'avez dit, Elio a fait une enquête de cet été à octobre auprès de 300 copropriétaires, et il y a 70% des respondants qui méconnaissent les aides à la rénovation globale. C'est très flou, c'est très opaque. D'où l'intérêt
70% même, si on prend les copropriétaires.
Ouais. Selon nous, notre sondage qu'on a fait. Donc c'est très opaque, c'est donc très important de s'accompagner de structures comme la nôtre.
Quel métier d'Elio en une phrase, j'avais dit que vous vous présenteriez.
Elio, c'est une structure collective en économie d'énergie. On existe depuis 2008. Notre métier premier, c'est les certificats d'économie d'énergie. Donc, c'est faire connaître le dispositif. Et on est au Pôle Habitat Collectif depuis un an, assistant à maîtrise d'ouvrage. Vous en parlez. Donc, c'est obligatoire dans le cadre de ma prime rénov. Vous dites que ça fait un peu d'ombre au syndic.
Vous travaillez avec les syndics.
C'est un partenariat. C'est nos clients.
Voilà.
Tout à fait. Et c'est aussi enlever un poids assez énorme, c'est quand même une tâche importante. C'est hyper chronophage pour les gestionnaires qui manifestement manquent de temps. Donc l'AMO, il vient vraiment l'épauler et faire le travail qu'il n'a pas le temps de réaliser.
Vous venez vous pluguer, oui. Si je puis dire, sur le syndic. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Alors, on va approfondir le sujet. Et je parlais des copropriétaires bailleurs, deux choses. La loi du 22 août dernier les concerne directement, puisque, pour simplifier, s'ils n'engagent pas les travaux selon le degré de manque de qualité énergétique dans leur logement, ils ne peuvent pas louer. Hein, et avec une chronologie sur les années qui viennent, hein, jusqu'en 2034, ils sont obligés de rendre leur logement décent, sans quoi ils ne pourront pas le louer. Et il est non décent si la qualité énergétique est insuffisante. Et deuxièmement, ces copropriétaires bailleurs, ils sont majoritaires dans nos immeubles de grandes villes. Donc leur sort est très important. On va les faire s'exprimer, ces copropriétaires bailleurs.
Avis de valeur, le suffrage populaire.
Que pensez-vous de l'interdiction de location des passoires énergétiques ?
Eh bien, j'en étais informée par l'agence qui gérait effectivement la location de l'appartement. Et c'est bien pour ça que j'ai pris la décision effectivement de le mettre en vente. Pourquoi ? Parce que effectivement, il y a trop de contraintes, sans aucune information autour. Donc voilà, pour moi, c'est le sujet devient de plus en plus complexe, sans information. Donc voilà, moi, j'aime les choses simples, claires, on m'informe, je prends une décision. Aujourd'hui, je n'ai pas d'information, c'est compliqué, je vends.
Alors, c'est très intéressant, on l'entend de la part de syndic ou de gestionnaire locatif, vous êtes souvent les deux, c'est d'ailleurs votre cas, et Francis et toi Isabelle. Ton avis, bien sûr, aujourd'hui les propriétaires bailleurs sont exaspérés, agacés, ils sentent cette contrainte, ils disent « je vends ». Bon, et puis quand on est sur un marché tendu, on sait qu'on pourra vendre sans difficulté, que le prix sera bon. C'est pas la solution, parce que si demain le parc locatif s'appauvrit, c'est une catastrophe. Est-ce que tu penses aujourd'hui que les copropriétaires bailleurs vont être des freins, parce qu'ils vont dire « moi je ne veux rien savoir », ou au contraire, alors qu'ils étaient moins engagés dans la copropriété, ils vont forcément s'engager pour que la copropriété leur donne les moyens de continuer à louer, c'est-à-dire d'engager les travaux nécessaires ?
Là, on va avoir deux catégories. On va avoir des gens comme Brigitte qui vont être en désespérance et qui vont dire « de toute façon, je ne pourrai pas atteindre, ou je pourrai peut-être atteindre pour la première tranche la catégorie E, mais je n'arriverai que difficilement à atteindre la catégorie D ou C, parce que je suis peut-être dans une copropriété qui est un peu amorphe, qui décide pas grand-chose, et je serai toute seule à me battre. » Donc ça peut se concevoir. Et on aura une partie des clients, et c'est une vraie menace pour les administrateurs de biens et pour les propriétaires bailleurs eux-mêmes. Maintenant, j'ai toujours prôné quelque chose que je n'arrive pas à me faire entendre des politiques, donc l'occasion est peut-être la bonne encore pour
ça
faire entendre.
Ça en est une, absolument.
On a toujours dit que, parce que je n'ai jamais vu un propriétaire bailleur se désintéresser de son patrimoine. C'est faux. C'est faux, et en plus, quand il dépense 100 euros, il en récupère à peu près, oui, entre la CSG-CRDS et la tranche marginale d'imposition dans laquelle il est, en moyenne, il en récupère à peu près 40. Donc, pourquoi un bailleur ne maintiendrait-il pas un bien en location ? Ben, simplement, ça fait des années que je dis, puisqu'on le voit bien même parmi nos copropriétaires, nos propriétaires bailleurs, soit qu'on gère, soit au sein des copropriétés, ça fait des années qu'on dit « sortez les propriétaires qui veulent mettre en loyer médian et qui veulent s'engager vraiment dans la rénovation énergétique, sortez-les de l'IFI ». Je ne sais plus comment le dire pour qu'ils rentrent dans un système vertueux.
C'est une très bonne proposition. Alors, on en entend une deuxième qui est faite par la FNAIM, et je pense par la FNAIM du Grand Paris, qui est par exemple le doublement, et pour l'instant ça n'est pas dans le projet de loi de finances qui est en train d'être examiné, hein, le doublement du plafond du déficit foncier.
Absolument.
Pour ceux qui engagent des travaux. Ça aussi, ce serait puissant.
Oui, mais et puis même faire devenir les copropriétés eux-mêmes bailleurs. Par exemple, lorsqu'on est en surélévation, pourquoi la copropriété, si on a purgé dans un premier temps le droit au profit des propriétaires du dernier étage, pourquoi le syndicat des copropriétaires, à la majorité simple de l'article 24, ne deviendrait pas, lui, vendeur, avec un démembrement au profit d'un organisme qui lui-même louerait pour 15 ans, et il resterait le syndicat nu propriétaire ?
C'est une très bonne proposition. Très bonne. bonne proposition. Voilà. Francis, propriétaire bailleur, ton avis, est-ce qu'aujourd'hui ils vont effectivement jouer le jeu? Est-ce que vous allez les y aider lorsque vous êtes gestionnaire locatif de leurs biens, ou même lorsque vous êtes syndic mais que vous connaissez leur situation de bailleur? Beaucoup autogèrent d'ailleurs, hein, il n'y a pas d'intermédiaire, peu importe leur situation, c'est d'être bailleur. Quel est ton avis? Est-ce que tu crains une vague de cession? Est-ce qu'il y a des différences selon les âges d'ailleurs? On voyait cette dame, en effet, qui s'appelle Brigitte, bon, qui peut avoir 65 ans peut-être, pardon si je la vieillis, mais en tout cas elle n'a pas 30 ans. Bon, est-ce qu'il va y avoir différence de réaction selon les âges, selon les conditions économiques aussi?
Non, selon les conditions économiques, très certainement. Selon les âges, je ne pense pas, parce que un bien immobilier, on pense à le transmettre.
C'est pérenne. Hein, oui.
Bon, il y a quand même les donations qui sont derrière. Bon, moi je ferai quand même deux catégories de propriétaires bailleurs. Si vous voulez. Il y a les propriétaires bailleurs qui se dirigent vers le social, hein, et dans lequel on a un certain nombre d'aides actuellement, si vous voulez, de défiscalisation des loyers, etc. C'est plutôt sur la province qu'on voit ça. Hein, plus qu'à Paris, parce que le plafond qui est donné des loyers à Paris ne permet pas de faire une rénovation énergétique et de louer à bas coût. Si vous voulez. Mais en province, on le voit. Moi, j'ai un projet actuellement sur Rochefort, j'en ai fini sur La Rochelle, ça a très très bien marché.
On parle des villes moyennes, les fameuses villes moyennes qui reprennent le dessus.
Tout à fait. Bon, ça, c'est parti. Sur Paris, c'est quand même beaucoup plus difficile, parce qu'on a une typologie de bâtiments qui ne permet pas de faire une isolation sur les parties communes. Hein, on est obligé de faire l'isolation sur l'intérieur, c'est-à-dire sur les parties privatives, on va réduire les surfaces. Hein. Ouais. On est obligé d'avoir des appartements libres pour le faire. Hein. C'est très difficile pour un propriétaire bailleur d'engager des travaux de rénovation énergétique autres que les fenêtres, hein, quand son locataire reste dans les lieux.
Alors d'ailleurs, il y a un congé pour travaux qui a été créé, hein, si ma mémoire est bonne, dans la loi du 22 août. Bon, cela dit, le congé pour travaux, il veut quand même dire que le locataire va devoir se loger quelque part, et c'est pas le bailleur qui pourra le reloger, sauf s'il a un immense patrimoine.
Bah, si c'est un bailleur social, si.
Oui, bon, exactement.
Et c'est la grosse différence qui est entre les bailleurs sociaux et les bailleurs privés. On voit bien que la rénovation énergétique a très bien marché, et marche très bien chez les bailleurs sociaux, parce que ils ont, d'un côté, une capacité financière qui leur est donnée par l'État.
Bien sûr. Hein,
et la deuxième chose, si vous voulez, ils ont la possibilité de reloger leur locataire, que dans le privé, c'est très difficile.
C'est clair. Constance, votre regard sur les propriétaires bailleurs, alors vous avez les syndics pour partenaires, les copropriétaires pour clients finaux, hein, et les bailleurs, qu'est-ce qu'on peut dire d'eux?
Bah, c'est effectivement ceux qui sont plus attachés au financement et regardent au final les coûts qui restent quand même très importants pour des rénovations globales, parce que 35% de gain énergétique, ça reste des coûts énormes pour une résidence. Donc il y a un mur d'investissement.
On rappelle que c'est la condition, hein, pour ceux qui nous écoutent.
Oui.
Aujourd'hui, pour bénéficier de MaPrimeRénov', hein, par exemple, il faut que les travaux permettent de redresser la performance énergétique de 35% au moins.
Oui.
C'est énorme. On peut le dire, c'est exigeant, quoi.
C'est énorme, il faut absolument... c'est un bouquet de travaux... Il faut un ITE, remplacement de système de chauffage, si c'est en chauffage collectif, et la plupart du temps, c'est des résidences en chauffage collectif, comme vous disiez. Mais voilà, c'est vraiment des travaux sur 3 ans en moyenne. Donc c'est 25% de ces travaux-là qui sont financés. L'assistance à maîtrise d'ouvrage est financée à hauteur de 30%. Et le MO est obligatoire à partir de 100 000 euros de travaux, qui est systématique, puisque dans un bouquet de travaux, on arrive facilement à 100 000 euros. Mais pour le propriétaire bailleur, oui, donc il regarde bien sûr, il essaie de calculer le retour sur investissement. Après, c'est la loi climat d'août dernier, manifestement, va l'obliger à prendre des mesures, et c'est compliqué d'augmenter une étiquette énergétique d'un seul appartement, rénovation globale.
Il y a d'ailleurs dans la loi une entorse, mais elle mène pas très loin. Si on n'a pas obtenu de la copropriété les travaux qui peuvent restaurer la qualité énergétique, on ne sera pas, et qu'on a fait toute chose pour ça, c'est-à-dire qu'on a incité à mettre à l'ordre du jour, qu'on a bien voté, etc., on ne sera pas interdit de louer. Sauf que le locataire lui-même sera pénalisé. Il dira, moi, je ne vais pas choisir ce logement-là. C'est ça, en fait.
Oui, tout à fait.
Et puis, dernière chose, MaPrimeRénov', pour les copropriétés, il n'y a pas de condition de ressources. Hein, on prête à la copropriété. Ouais. En revanche, pour le bailleur, la puissance de l'aide n'est pas la même selon les revenus. On est d'accord?
Oui, c'est vrai, ouais. Aussi.
Et donc les bailleurs qui parfois sont, gagnent un peu plus d'argent que, ouais, que les locataires, enfin c'est statistiquement vrai, leur prime est quand même minorée aussi.
Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais.
Alors, on va continuer avec la dernière séquence, et là encore on va dans la rue, faire parler des syndics. Alors on en a sur ce plateau, on est allé les interroger, je crois que c'était, pour la petite histoire, c'était au récent congrès de l'UNIS, peu importe, voilà, je fais un clin d'œil, et on va voir s'ils se sentent en mesure de conduire les copropriétés à bon port pour la transition énergétique. On en voit.
Avis de valeur, le suffrage populaire.
Arrivez-vous à faire voter des travaux des rénovations globales ?
Il nous faut des partenaires qui gèrent pour nous toute la partie en amont du vote des travaux. Une fois que tout est géré avec le montant des travaux, les éventuelles aides qu'on peut avoir, le reste à charge. Une fois qu'on a le global, ça nous permet de pouvoir présenter en AG. Et là, en général, c'est bien construit, ça passe. Voilà. Mais sans aide et sans des bons partenaires, si on n'en arrive pas là, on n'y arrive pas.
Est-ce que vous arrivez à faire voter des travaux dans le cadre d'AG en visio ?
Moi, ça m'est arrivé de faire des AG en visio. Vu qu'il y a certains copropriétaires pour lesquels ça ne marchait pas, j'en avais un au téléphone, l'autre au téléphone portable en haut-parleur, et certains en visio, mais sans caméra, le son ne marchait pas bien, donc non, clairement, j'en ai fait 2-3, mais j'ai arrêté. Impossible.
Très intéressant. Allez, sur ce dernier sujet, Isabelle, bon, on a beaucoup parlé d'une année blanche pour les travaux, et notamment les plus importants d'entre eux. Alors même d'ailleurs que vous avez pris collectivement des engagements, hein, FNAI Munis et Pluriance, les majors du métier, ont dit 50 000 copropriétés rénovées dans les 3 ans à venir, et il y a une année qui a quand même été faiblarde. Est-ce qu'on peut dire que pour faire voter des travaux aussi engageants, on va être sur plusieurs centaines de milliers d'euros, quel que soit l'immeuble, il faut avoir face à soi les copropriétaires.
Alors c'est fondamental. Essayer de faire des réunions préparatoires en visio, ça peut se concevoir, oui. C'est très bien. Il faut les faire en visio avec le conseil syndical, puisqu'il faut déjà que le conseil syndical comprenne ce dont il s'agit, oui, l'appréhende, se l'approprie, et puis après, éventuellement, une assemblée générale dite informelle, une réunion préparatoire qui soit pas anxiogène et sur lequel on puisse dérouler le process, les aides, et de manière à ce que ce soit pas quelque chose qui se termine par tout de suite on vote. Là aussi, il faut un temps d'adaptation aux copropriétaires, puisque chacun a son statut, faible ressource, bonne ressource, bailleur, occupant, etc. Bon, donc, si on veut pas passer par ces étapes-là, et le temps de l'AG qui est normalement annuel, mais on peut faire des AG supplémentaires, donc on peut rythmer de manière beaucoup plus serrée sur... Oui, l'AGE, c'est plus extraordinaire, c'est plus pour des travaux urgents. L'AGS, c'est une supplémentaire, donc on peut en faire autant qu'on veut, des assemblées générales supplémentaires. Encore faut-il qu'elles aient leur utilité et qu'on vote les travaux au final. Mais ça passe par... et c'est là que le syndic est très important, parce que c'est lui qui va être chargé de convaincre, d'avoir les bons arguments... Et pas que les copropriétaires pensent que c'est uniquement pour des honoraires de gestion de travaux. C'est
oui,
pas du tout ça, en fait. C'est pour
existe,
la valorisation du patrimoine.
Bien sûr. Francis, ton regard d'architecte aussi, les copropriétaires, tu penses effectivement qu'on peut les faire basculer, les convaincre? Parlons des arguments et parlons des freins. Les freins, on a vu qu'il y avait l'ingénierie financière. On va dire ça comme
tout
ça. Et avec Constance, on va approfondir ce sujet tout à l'heure. Bon, il n'y a pas de climato-scepticisme chez les copropriétaires.
Non,
il n'y a pas de raison de le penser.
Ils sont d'accord pour la rénovation énergétique. Ce qu'il faut, c'est bien leur expliquer.
Oui, c'est ça.
C'est la première chose. Deux, avoir les conditions financières qui leur permettent d'aller vers cette démarche.
Il faut leur apporter la réponse quand on leur pose la question. C'est-à-dire, si on leur pose la question sans avoir de solution, on va y revenir, financière, c'est pas la peine.
C'est pour ça qu'il faut que le syndic soit accompagné de techniciens, si vous voulez, qui montent un dossier sérieux, hein, et qui permettent de répondre à toutes les interrogations des copropriétaires.
Le rôle de l'archi, alors vous êtes tous les deux aussi architectes, mais si vous prenez un peu de recul, les architectes sont sortis du bois hein, depuis quelques mois, on ne parlait pas d'eux, et puis ils sont mis au centre du débat. Notamment, ils se réintéressent aux copropriétés existantes. Ouais, la nouvelle présidente de l'Ordre est férue de ce sujet. On la salue, Christine Lecomte. Est-ce que les copropriétaires ont une confiance aussi dans l'architecte? Ils ont besoin de leur syndic, ils ont besoin de spécialistes de l'accompagnement financier. L'archi, il est où dans cette affaire?
Alors, l'archi, c'est celui qui va faire le bien-être des gens. Hein, si on est là, c'est pour leur faire des espaces, si vous voulez, dans lequel ils se sentent bien.
Oui. Hein,
bon, et qui va être
le confort de vie, hein, c'est un argument très fort. Hein.
Et l'architecte, il est là pour ça. Hein, il est là pour leur dire attention, on va pas abîmer la façade. Parce qu'on va faire un doublage extérieur, on va respecter un certain nombre de qualités architecturales, on va respecter les espaces, hein, on va pas les rétrécir, on va pas les agrandir, etc. On va respecter la lumière, hein, ou on va l'améliorer, hein, et c'est là qu'ils voient la qualité de l'architecte.
Mmh. Il y a une crainte des copropriétaires que les travaux altèrent, dégradent l'immeuble.
Non, on le voit bien même dans les annonces immobilières. On vous met appartement rénové par un architecte. Hein, maison d'architecte. Ça veut dire, le mot architecte donne une qualité
il est rassurant
à l'habitat.
Oui, c'est clair. Hein,
bon, et ça rassure les gens.
Il est dans la chaîne aujourd'hui qui va conduire les copropriétés à bon port, je reprends mon expression de tout à l'heure.
Il en fait partie. Oui. Moi, je pense qu'il est tout à fait, de plus en plus, on va l'associer. Hein, c'est à lui aussi de rentrer dans ce processus.
Bien sûr.
Hein, il n'est plus le chef d'orchestre, celui qui va tout commander, comme on l'a peut-être vu il y a un siècle. Hein, il est celui qui va faire partie d'une équipe. Hein, pour le bien-être de tout le monde.
Oui, on peut bien dire, vous êtes tous les deux de cette profession, qu'on aime beaucoup, que d'abord, elle ne s'est pas beaucoup intéressée aux copropriétés existantes, je le disais tout à l'heure. Ça
tout
n'a pas
fait.
Été, voilà.
Hein,
bon. C'était moins noble que l'acte de construire.
Bah, quand on est architecte, on est un petit peu artiste sur les bords.
Oui. Hein,
bon, et on espère tous faire une œuvre magnifique.
Passer à la postérité, voilà.
Bon, ouais. Alors que l'entretien d'immeubles,
oui,
c'est autre chose.
C'est plus laborieux. Mais
voilà.
Je crois qu'aujourd'hui, tes confrères comprennent mieux qu'avant cette nécessité.
Tout à fait.
Oui.
Tout à fait. Bon, il y a quand même un certain nombre de confrères qui se sont spécialisés dans ce domaine-là.
Oui.
Hein. Bon, les architectes de copropriété, hein, ils existent quand même depuis très longtemps.
Oui.
Hein. On a la CARGIM avec les architectes qui font de la gestion et de l'entretien d'immeubles.
Oui.
Hein. Et puis, on a une présidente à l'Ordre des architectes qui nous demande quand même d'adhérer à la qualité architecturale et qu'on doit la développer. Hein. Je pense que chez les jeunes, dans la jeune génération, il va y avoir ce souci que l'architecte soit de nouveau celui qui va présenter un espace agréable à tout le monde.
Constance, les outils existants, alors encore une fois, phase de diagnostic et phase d'ingénierie financière, est-ce qu'on peut en citer quelques-uns qui sont de nature à aider les syndics, à faire basculer les copropriétés, qui sont de nature à rassurer les copropriétaires sur le fait qu'on va y arriver sur la durée et que quelle que soit sa condition, il existe des outils?
Bah, c'est ce que je disais, la présence d'un AMO, d'un MOE. L'AMO, il va faire toute l'ingénierie financière, jusqu'au prêt aussi.
Alors les prêts, parlons des prêts. Ouais. On a parlé de MaPrimeRénov, c'est une aide. Et puis, il y a ce fameux prêt collectif aujourd'hui. Ouais. Et puis, il y a l'éco-prêt collectif. Donc deux outils, l'un qui est, on va dire, public, même si on va le chercher à la banque, et l'autre qui est purement privé. Il n'y a pas beaucoup d'offres de prêts collectifs.
Non, justement, ça ne s'est pas assez aligné. Il faudrait que ça s'aligne plus, je pense, sur toutes ces contraintes et ces subventions. Ça, c'est hyper important.
Il y a deux établissements, on peut bien le dire, hein, qui proposent ça aujourd'hui. C'est la Caisse d'épargne d'Île-de-France, mais pour la France entière, pour tout le réseau, hein, c'est ça, et Domofinance. Mais c'est une goutte d'eau par rapport aux besoins.
Je suis bien d'accord. Ouais. C'est un problème.
Ouais.
Il faut vraiment que ça s'aligne là-dessus. Quoi.
Et l'éco-PTZ collectif, c'est un outil utilisé, vous le préconisez vous-même dans votre...
Alors chez Elio, on n'a pas encore lancé l'éco-PTZ.
D'accord. Voilà. Donc vous croyez beaucoup plus aux solutions privées.
Oui.
Bien sûr, un petit mot peut-être sur ce que sont les C2E, parce que c'est un outil puissant. Je pense que c'est celui qui a la plus faible notoriété, hein, les certificats d'économie d'énergie, y compris chez les syndics. Qu'est-ce que c'est un C2E?
Oui, c'est parce que vous pensez aux travaux à 0 euro. Les C2E, oui, alors aussi important, parce que MaPrimeRénov', donc c'est une aide publique, subvention de l'Agence nationale de l'habitat, mais pour les rénovations globales, le financement C2E est cumulable. Les C2E, du coup, c'est privé, c'est les fournisseurs d'énergie qui sont tenus de répondre à une pénalité en kilowattheure sur des périodes de 3-4 ans. C'est issu de la loi POP de 2005. Voilà, donc ça, c'est des financements privés et donc tous les fournisseurs d'énergie doivent aider, inciter les consommateurs français à faire
Ce sont des obligés. Bon, oui. Malgré eux, ils sont pollueurs, c'est leur métier, et donc ils se rachètent en quelque sorte en aidant à la rénovation énergétique. Hein,
c'est ça. Tout à fait. C'est le principe du pollueur-payeur.
Un mot sur la rénovation globale et la rénovation par geste. Alors, on a interrogé, et je vais revenir, ce sera le mot de la fin, vers Francis et vers Isabelle. Rénovation globale, est-ce que ça peut faire peur aux copropriétaires hein, par rapport à ce qu'on appelle la rénovation par geste, progressive? Votre regard, est-ce qu'il faut bannir la rénovation par geste en programmant peut-être les gestes, évidemment, et en les mettant dans le bon ordre sur plusieurs années, ou est-ce qu'il faut y aller franco, trouver les financements et allez, on fait la rénovation globale la plus efficace?
Alors, le seuil des 35% de gain énergétique est assez élevé, je trouve, mais en revanche, la rénovation globale, c'est très pertinent et d'avoir mis ça à l'ordre du jour, c'est vraiment et aussi d'avoir fait des audits plus complémentaires, c'est aussi très pertinent, puisque on voit vraiment le vrai gain énergétique et l'isolation des bâtiments, c'est quand même l'avenir, ça fait longtemps qu'on en entend parler, et les copropriétaires font des fortes économies d'énergie sur une rénovation globale au lieu de mettre des petits pansements. Voilà, s'il y a un ITE qui est prévu sur une résidence, il faut aller vers une rénovation globale. Il suffit d'attendre encore 10% de gain énergétique. Alors, c'est des financements en plus, mais alors c'est tout un travail de pédagogie. Si on a un conseil syndical engagé, on peut y arriver. Mais en tout cas, c'est très pertinent. Et enfin, on va vers le vrai et les gains énergétiques.
Merci beaucoup. Isabelle, rénovation globale ou rénovation impressionniste?
Ça dépend des copropriétés, bien sûr. Mais moi, je suis pas aussi optimiste que Constance sur le fait que l'État ait mis en place ces 35%. Le seuil est beaucoup trop haut. Et ça désespère les copropriétaires.
Beaucoup demandent qu'il soit abaissé.
Mais bien sûr.
Clairement.
Parce que une copropriété qui vient de rénover sa chaufferie se dit « j'ai plus ça ». Et donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire à part les planchers hauts de garage, les ITE de mes pignons? Et encore, faut-il qu'on arrête aussi, on a fait des progrès, mais on arrête aussi, maintenant le droit de veto tombe, mais oui. Qu'on arrête de demander des 100 et des 1000 entre copropriétés, parce qu'on n'y arrivera pas non plus. Donc je ne suis pas optimiste sur les 35%, et je pense que chaque copropriété a son propre rythme. Je ne suis pas sûre que les gens, parce que justement il y a des différences d'âge, parce qu'il y a des jeunes copropriétaires qui sont fortement endettés avec un tout nouvel emprunt, qui ont une vision sur leur job qui est on ne peut plus précaire.
Imparfait, ouais.
Je ne suis pas sûre que la rénovation globale, les faire entrer là-dedans, ça corresponde exactement à leur objectif.
Francis, est-ce que le mieux est l'ennemi du bien en la matière?
Tout à fait. Bon, mais une rénovation globale, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Il faut quand même le reconnaître pour le bâtiment, pour les économies d'énergie. Et puis, ça fait voir quand même, ça revalorise le patrimoine.
Bon, et le syndic, je dirais, au passage, peut-être. Hein.
Mais la personne qui a un bien revalorisé va mieux le vendre.
Oui, c'est hein, ça.
Va mieux le louer. Hein. Bon, et ça, c'est quand même important. Parce que quand vous allez avoir un bien dégradé, parce que c'est une passoire thermique, et on le voit en province. En province, vous avez des gens, ils louent un pavillon. Et puis 9 mois après, ils donnent congé parce que vu la facture qu'ils ont eue tout l'hiver, ils vont dans celui d'en face.
Et le manque de confort, parce qu'il y a la sensation de paraf froide, voilà. Ouais, c'est clair.
Donc on est obligé d'y aller. On est obligé d'y aller, et je pense qu'il faut effectivement avoir plus d'aides, des aides plus simples. Hein, dans d'autres pays européens, les aides sont beaucoup plus simples qu'en France. En France, bon.
Et peut-être baisser certaines exigences. On nous entend, hein, cette émission sera écoutée aussi par des décideurs, et c'est vrai qu'il y a des demandes d'un certain nombre de gens très sérieux qui veulent la rénovation énergétique, qui disent la barre est placée un peu haut, même si aujourd'hui il faut faire avec cette barre de 35%. Je voudrais vous remercier tous les trois de votre franchise. J'ai vraiment l'impression que vous n'avez pas mâché vos mots. Donc il y a une vraie conscience des difficultés, des craintes de vos clients, copropriétaires, des confrères aussi, des syndics qui se posent mille questions, mais il y a des voix, et puis il y a une envie de faire. Voilà, aussi bien chez ceux qui accompagnent les syndics et les copropriétés, on remercie Elio, que ceux qui gèrent les copropriétés. Merci beaucoup, on se retrouvera dans un mois pour un autre avis de valeur. Merci Francis, merci Isabelle, merci Constance.
Merci. Au revoir.
Avis de valeur, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.